Bonjour. Je vais faire un peu moindrer tout à l'heure hein, sur mes tam-tams. Ambiance de vacances, tenue de vacances. Donc une prédication pas trop compliquée non plus. Il faut quand même se reposer les ménages aussi quand même de temps en temps. Allez. En fait, ce que je voulais vous dire, je l'ai entendu. Je me suis inspiré d'une méditation que j'ai entendue il y a 3 semaines à peu près de la part de Linda Hoyer. Linda Hoyer, c'est une théologienne qui était prof du Nouveau Testament au Bidenberg, qui doit être chargée de cours à la fac de Vaud, si je ne m'abuse, qui est en retraite, enfin, qui vient de prendre sa retraite, à peu près. Voilà. Puis j'étais dans un endroit où je l'ai entendu faire une méditation et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui méritait un prolongement pour nous tous ce matin. Et je vais commencer en lisant dans l'évangile de Luc. Je vais lire des textes qui sont tous des textes très connus. Et d'ailleurs, vous connaissez tous très bien la Bible, donc tous les textes sont très connus pour vous. Dans Luc, au chapitre 23, on a célébré la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et dans ce verset, on conduit Jésus à la croix et avec lui deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec lui. L'un des malfaiteurs, c'est un tout petit peu plus loin, verset 39, suspendu en croix, blasphémé, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deux malfaiteurs, deux brigands, ils sont condamnés à mort, donc on peut quand même imaginer qu'ils ont fait des choses graves. Hein, c'était sans doute des criminels, ou en tout cas des gens qui avaient attenté gravement à la sécurité de l'État, la santé d'autrui, je ne sais pas exactement, on ne le saura jamais. Des crimes qui seraient sans doute inoubliables pour nous aujourd'hui. Et pourtant, en un instant, Jésus oublie tout le passé de cet homme, et il lui fait une promesse qui est une promesse unique dans le Nouveau Testament. À aucun autre, Jésus a dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Même quand Jacques et Jean, vous savez, il y avait deux disciples, Jacques et Jean, ils étaient un peu ombrageux, là, on les appelait les fils du tonnerre. Et un jour, ils viennent voir Jésus et lui disent « Seigneur, on a quelque chose à te demander ». Ah bon, quoi ? C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Eh bien, Seigneur, on voudrait que dans ton royaume, nous soyons assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Rien que ça, hein, c'est une place d'honneur. Et Jésus leur répond, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et il ne leur donne pas cela. Il ne leur répond pas positivement. Il leur dit juste que, voilà, rendez-vous compte ce que ça veut dire d'accéder au royaume de Dieu. Ce n'est pas juste des places de préséance. Et à ce malfaiteur, là, sur la croix, qui avait fait les pires choses, que la société, à l'époque, on pendait au bois les gens qui avaient fait ces choses-là, à lui, Jésus fait cette promesse, comme si Jésus oublie tout, comme s'il n'avait pas de mémoire. On va prendre un autre exemple, un peu plus tôt dans l'évangile de Luc. Là aussi, une rencontre bien connue dans Luc 19. Jésus entre dans Jéricho et traverse la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Alors les péagers, est-ce que tout le monde sait ce que c'était que les péagers ou les publicains? C'était des gens qui étaient autorisés, qui achetaient une charge, comme on dit, d'un notaire, auprès des autorités romaines, et qui donc collectaient les impôts. À l'époque, à l'entrée de chaque ville, il y avait des barrières d'octroi, comme ça existait encore en France il y a 200 ans sans doute. On en a encore quelques traces. Et donc, quand on rentrait dans une ville, eh ben, on payait une taxe. Voilà, ce n'était pas les impôts locaux, c'était comme ça qu'on payait les impôts à l'époque. Donc, il fallait bien des gens pour collecter ces taxes. Ça ne se faisait pas par Internet comme on fait aujourd'hui. Et donc, il y avait des collecteurs d'impôts. Et les Romains, qui avaient envahi quand même une grande partie du monde civilisé autour de la Méditerranée de l'époque, n'avaient pas suffisamment de monde. Ils réservaient leurs gens pour faire l'armée, pour les soldats. Et donc, ils embauchaient des gens du pays qui faisait ce travail-là pour le compte de l'occupation. Donc, évidemment, c'était, on va dire, des collabos, comme on a dit à une certaine époque en France. Ils travaillaient pour le compte d'autrui, et qui plus est, ils ne le faisaient pas tous, sans doute, de façon très honnête. Et donc, quand il est dit que Zachée était riche, ça semble vouloir sous-entendre qu'il s'était enrichi de manière, on va dire, excessive par rapport à ce qu'aurait sans doute rapporté normalement son simple exercice de son travail. Hein? Il était corrompu, on va dire ça comme ça. Il était le chef des péagers, il était riche. Et puis, vous connaissez l'histoire, il va monter en haut d'un arbre parce qu'il est petit, il y a plein de monde, il ne peut pas voir Jésus. Et justement, Jésus le voit et lui dit, tiens, toi, descends. C'est chez toi que je vais aujourd'hui. Puis après, on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés. On ne sait pas la conversation qu'ils ont eue dans la maison de Zachée. Et puis au verset 8, Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Jésus, décidément, n'a pas de mémoire. Il oublie tout. Il oublie les brigands et ce qu'ils ont fait. Il oublie Zachée et tout ce qu'il a fait, toute sa corruption et le fait qu'il a profité de sa situation pour s'enrichir indignement. Alors, puisqu'on est parti comme ça, on va parler de certains des défauts de Jésus. Jésus a plein de défauts, en fait, quand on regarde. Donc le premier, c'est celui-là. Il n'a pas de mémoire. On va aller dans un autre texte de l'Évangile, c'est dans Matthieu, cette fois. « Que pensez-vous, dit Jésus, si un homme, Matthieu 18, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? S'il parvient à la trouver, en vérité, je vous le dis, s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. » De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Vous feriez ça, vous ? Laissez sur la montagne 99% de votre patrimoine, parce que c'est ça qu'il est question quand même, hein, berger son troupeau. 99% laisse sur la montagne, hein, c'était peut-être comme maintenant, il y a peut-être des loups et des choses comme ça qui vont manger des bons vivres. Hein, pour aller en chercher une, abandonner 99% pour traiter le 1%. C'est pas comme ça qu'on fait dans le commerce. Je crois pas, hein, Corentin, c'est pas ça qu'il faudra apprendre dans ton MUC, là, ta maîtrise, le management des unités commerciales, il faudra faire autrement. Jésus n'aime pas le calcul non plus. Jésus n'aime pas le calcul. Et dans ce qu'il nous raconte, on n'est pas dans le calcul. Un peu plus loin, dans le même chapitre de l'évangile de Matthieu, Pierre s'approche de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Cette question, hein, c'est pardonner à quelqu'un. Vous savez, quand un enfant fait et refait toujours la même bêtise et qu'on lui dit « ça fait 3 fois que je te le dis hein, », d'accord, c'est déjà beaucoup quand même. Alors Pierre, il pense remonter un peu la dose, il dit « sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Il dit « là, 7 fois, là c'est bon, j'ai un bon point, c'est sûr ». Jésus lui dit « bon, non, moi je te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois, 7 fois ». Mais il aurait aussi bien pu dire « je te dis 7000 fois, 7 fois ». Ou 70 000 fois, 7 fois. Et Jésus, là encore, il n'aime pas le calcul. Il n'est pas bon au calcul, il ne s'agit pas de calculer 1 fois, 2 fois, je note, et à la 7e fois, là, ça tombe. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas quelqu'un qui est dans le calcul. Un autre épisode qui nous montre que Jésus n'aime vraiment pas les maths. Marc, au chapitre... Pardonnez mon irrévérence. Hein, vous comprenez que c'est du second degré, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'espère. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 12... je crois, et au verset 41, oui, c'est ça. Assis devant le trône, donc Jésus est dans l'esplanade du temple, là où les gens, c'est comme ici, il y a un endroit où les gens déposent leur offrande. Il regardait comment faisait la foule. Plusieurs riches mettaient beaucoup, un gros chèque. Puis ils le mettaient bien pour qu'on voit bien qu'ils avaient mis ça dedans. Et puis il vient aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 sou. Pas exactement ce que ça fait en euros, mais ça a l'air d'insister pour dire que c'est vraiment pas grand-chose sur le plan économique. Jésus appelle ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Ils ont tous mis de leur superflu. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand on est trésorier, notre trésorier n'est pas là, mais... Ils aiment bien les gros chèques aussi, hein, je pense, quand même, pour faire vivre l'Église. Mais voilà, ce que Jésus fait, c'est là, dans cette circonstance. Il n'est pas dans le calcul. Et Jésus préfère cette femme qui donne quelques euros, quelques centimes d'euros, à des gros donateurs qui faisaient parce que le cœur n'était pas le même, parce que l'inspiration n'était pas la même. Donc Jésus n'a pas de mémoire. Jésus n'aime pas le calcul. Et puis Jésus n'est pas toujours logique. Je vais reprendre un texte que j'ai commenté ici il n'y a pas très longtemps, dans l'évangile de Matthieu, vous savez, la parabole des ouvriers qui sont embauchés à différentes heures. Donc voilà, un maître de maison, il a une vigne, il faut vendanger, il va chercher des vendangeurs, donc le matin, et puis il n'en a pas assez, donc il y retourne en milieu de journée, il n'en a encore pas assez, à 4 heures il y retourne, puis à 6 heures il retrouve encore des gens qui sont là à traîner, mais qu'est-ce que vous faites là, rien faire, ben, on n'a pas donné de travail, allez hop, dans ma vigne, allez-y, voilà, donc il embauche des gens comme ça à différentes heures de la journée. Et puis arrive le moment où il faut passer à la caisse, c'est la fin de la journée, voilà, les gars ils ont pris leur douche, et ils passent tous devant pour toucher leur solde. Et donc le maître de maison dit à son intendant, là, fais-les venir en appelant d'abord ceux qui sont venus à la fin, ceux de la 11e heure, comme on dit. La 11e heure, c'était, je sais pas, 5 heures de l'après-midi, un truc comme ça. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Puis ceux de la 10e heure, et puis ceux de la 6e heure, et puis etc. Et puis les premiers 20, pensant recevoir davantage, mais eux aussi, ils reçoivent un denier. Alors évidemment, ils murmurent, ils déclenchent un front syndical, vraisemblablement, hein, parce que ce maître a osé renverser la hiérarchie des normes, enfin voilà, ça nous rappelle la loi travail et tout ça. C'est en pleine actualité, cette histoire-là, quand même. Et puis Jésus leur répond, maintenant, je t'ai pas fait de tort, je t'ai embauché pour un denier, t'as ton denier. Lui, je l'ai embauché pour un denier, il a son denier. Que t'importe. C'est pas très logique, quand même. Il faut bien reconnaître que malgré toutes les bonnes explications que j'ai données, et celle que je vous ai donnée ici, il y a quelques mois, en fait partie, c'est quand même pas très logique de faire ça comme ça. Et ça heurte notre logique, notre sérieux. Jésus n'est pas très logique. Et pour finir, avec ces petits clins d'œil que je donne dans Matthieu au chapitre 6, ce très beau texte que certains connaissent sûrement par cœur, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Regardez les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été aussi bien vêtu qu'eux. Ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? » Ça, ce sont les païens qu'ils recherchent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Là non plus, c'est pas logique. C'est l'inverse de ce qu'on m'apprend depuis que je suis tout petit. Faut que tu ailles bien, que tu travailles bien à l'école, parce que comme ça tu auras un bon métier, parce que comme ça tu pourras gagner de l'argent, faire vivre toi, ta famille, etc. Éventuellement faire du bien aux autres, quand même, voilà, ça fait partie de l'équation. C'est pas ça qu'on vous a appris depuis tout petit. On vous a pas dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, mais Corentin, ton bac, on s'en fiche, t'inquiète pas du lendemain, c'est pas grave. Hein, c'est pas ça qu'on t'a dit depuis quelques mois, je pense. C'était sans doute pas ça l'ambiance, hein, Sylvie. T'as raison quand même. Hein. Je vous dis, c'est du deuxième degré, hein. Prenez pas ce que je dis comme la vérité. Non, c'est juste pour illustrer. Voilà Jésus, on n'est pas dans la logique. La logique, c'est certes de se confier en Dieu, mais enfin, en même temps, de pas oublier ça. C'est le contraire de ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Et c'est le contraire de ce qui amène peut-être aujourd'hui certains à stigmatiser ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, etc. Et Jésus, lui, dans une attitude tout autre. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va tirer de ces quelques exemples. Et on aurait pu prendre beaucoup d'autres défauts, je mets des guillemets maintenant, à Jésus. Hein, il va manger et boire avec n'importe qui, on lui fait des reproches, il n'a pas le sens des conventions sociales. Enfin voilà, on pourrait prendre plein d'autres exemples. Jésus n'a pas de mémoire pour les brigands, pour Zachée, il oublie tout, il n'en tient pas compte. Il n'aime pas le calcul, en tout cas je ne lui confierai pas la caisse. S'il préfère s'occuper du 1% que de faire fructifier 99%, hein, il n'est pas toujours logique, on l'a vu. Nous propose une vie un peu comme ça, ne vous inquiétez pas du lendemain, un peu écolo peut-être, un peu Notre-Dame-des-Landes, ou je sais pas, quelque chose de ce genre-là. Alors vous avez peut-être trouvé que j'ai volontairement choisi des textes, les mauvais textes. Vous avez raison, j'ai choisi des textes, je ne sais pas s'ils sont mauvais. Mais on pourrait conclure aussi que, vous voyez, c'est bien la preuve que votre Jésus, c'est un doux rêveur. Il présentait, il proposait quelque chose, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Et vous pouvez toujours être malin, mais enfin, il faut bien gagner sa vie, il faut bien punir les gens pour ce qu'ils ont fait, il faut bien ne jamais oublier, parce que quand même, c'était important, et tomber dans un truc, c'est grave. On pourrait conclure que Jésus était un doux rêveur qui voulait construire un monde qui n'existe pas, sur des bases farfelues. Puis d'ailleurs, vous voyez ce que ça a donné, il a fini sur une croix. Ça n'a pas tellement marché, cette histoire-là. Je crois qu'au contraire, ces défauts de Jésus, comme je les ai appelés, avec des guillemets, encore une fois, là je mets des gros guillemets pour être sûr que vous avez bien compris que c'était du second degré. Ces défauts de Jésus, je les aime, parce que c'est pour cela que Jésus a donné ça. Et c'est pour ça qu'on a célébré la Sainte Cène tout à l'heure. C'est précisément à cause de ce que certains considèrent comme des défauts de Jésus. Jésus n'était pas un héros qui voulait montrer qu'il gagnait à tout prix. Il n'était pas juste un meneur d'hommes qui voulait imposer à ses gens une discipline de fer pour arriver à conquérir je ne sais quel royaume terrestre. On est dans autre chose. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les disciples de Jean viennent voir Jésus et lui disent « Mais pourquoi vous respectez pas les traditions? Pourquoi vous ne jeûnez pas quand c'est des jours de jeûne ?» Jésus leur dit « Mais voilà, quand ils sont avec... » Il prend l'image d'une fête de mariage. Il dit « Mais quand les gens sont avec l'époux, là, en train de faire la fête, vous ne voulez pas leur demander de jeûner quand même? C'est le moment de la fête. » Et il poursuit en disant « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et ça se déchire. De même, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. » Les outres, c'était les trucs en pot dans lesquels on conservait le vin. « Sinon, les outres se rompent, le vin se répand et tout est perdu. » Et Jésus disait, non, le message, il est nouveau, il est différent. C'est quelque chose qui est différent de tout ce que l'on entend et de tout ce sur quoi notre civilisation, malheureusement, semble se bâtir. Et pour moi, ces défauts de Jésus m'en disent long sur ce que Jésus attend de moi, dans ce monde qui a souvent une excellente mémoire, surtout pour les choses négatives, mais qui oublie ou qui néglige tellement ce qui fait que le monde est beau, dans la nature, dans les engagements courageux de certains, dans l'amour qu'un être porte à un autre être. Et Jésus, lui, prône le droit à l'oubli. C'est moderne, ça, le droit à l'oubli, avec Facebook, les réseaux sociaux, etc., etc. Et pas que. Jésus prône le droit à l'oubli, car ce qui compte, ça n'est plus ce qui était dans le passé de ces brigands, ça n'est plus ce qui est dans le passé de Zachée, mais c'est qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce qu'il y a eu un pas de foi timide. C'est quoi le pas de foi de ce brigand cloué sur la croix qui est en train de mourir? On pourrait en discuter. Ça suffit pour que Jésus voie là quelque chose qui lui permette de dire « Ok, ton passé, il est effacé. » Parce que mon sang sur la croix va l'effacer. Un droit à l'oubli que le prophète Michée traduisait avec des mots que je trouve toujours très beaux. À la fin du prophète Michée, « Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute, passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage, donc en faveur de ton peuple? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité. Tu jetteras les péchés au fond de la mer. » Voilà ce que fait Dieu. C'est pas qu'il n'a pas de mémoire, c'est que quand Dieu pardonne, il nous accorde un véritable droit à l'oubli, parce que nos péchés, il les jette au fond de la mer. L'apôtre Paul aussi, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, utilise là une métaphore juridique, en disant que par la croix, Jésus a effacé l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous. Il l'a supprimé, il l'a cloué à la croix. C'est comme si Jésus cloué à la croix, c'est toutes nos condamnations pour nos fautes qui étaient clouées sur cette croix. Et c'est bien un défaut, si j'ose dire, parmi ceux de Jésus, qui nous enseigne ce que nous devons faire. C'est pourquoi quand Jésus dit « c'est pas 7 fois que tu dois pardonner, c'est 70 fois 7 fois », ce n'est pas du calcul, ça veut dire à l'infini. La grâce doit pouvoir se déverser à l'infini. elle se déverse à l'infini de la part de Jésus. Et chacun peut y venir et puis y revenir, parce que malheureusement, nous ne sommes pas capables de mener une vie droite, parfaite. Il y a des moments difficiles, des moments où nous sommes, voilà, nous marchons à côté du chemin, mais à l'infini, 70 000 fois cette fois, Jésus va nous pardonner et va nous dire, viens aujourd'hui, tu as ta place auprès de moi. Et puis c'est défaut de Jésus, hein, il n'aime pas le calcul, ça m'en dit long aussi sur le monde qui sait bien calculer pour trouver son intérêt, pour réduire les coûts, pour augmenter les profits, avec tout ce que ça a comme conséquences positives, diront certains, et puis négatives, diront d'autres. Quant à cette petite vieille qui est venue, qui a mis un sou, hein, ça fait penser à certaines paroles qu'on a entendues récemment sur le pognon de dingue, etc., hein. Sur les gens qui sont dans des situations compliquées. C'est choquant ces phrases. Hein. Moi, ça m'a choqué en tout cas, même si c'était un peu instrumentalisé. Jésus, c'est pas parce qu'on est riche, c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on est faible, jeune, vieux, blanc, noir, enfin tous les comparatifs, homme, femme, tout ce qu'on peut prendre. Il ne veut pas se passer de nous. Il ne veut pas se passer de toi par calcul, parce qu'il vaut mieux prendre lui que lui, parce que elle, parce que lui sera meilleur que, ou l'inverse. Hein, pardon, croyez pas. Non mais, important, on n'est pas dans le calcul. Tous, nous avons notre place auprès de lui pour faire avancer son royaume, pour transmettre à d'autres cette grâce de Dieu, pour avoir une image dans le monde, pour montrer autour de nous que la vie avec Jésus, c'est une vie qui transforme véritablement l'intérieur, l'individu, mais aussi sa relation à l'autre, mais aussi son fonctionnement dans la société, mais aussi la façon dont il va entraîner peut-être faiblement pour la plupart d'entre nous. On a combien de personnes qui sont régulièrement autour de nous? Allez, quelques dizaines au plus. Hein, on ne va pas révolutionner la planète, mais que nous puissions être dans cette attitude qu'avait Jésus. On n'est pas dans le calcul, on est là pour accueillir tous ceux qui sont prêts à le suivre. Dans l'apôtre Paul, encore, disait que c'est dans la première épître aux Timothée, au chapitre 2, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et puis ces défauts de Jésus m'en disent long aussi sur un monde qui se targue d'être toujours très logique et de dire que c'est la logique qui doit nous gouverner, qui doit nous aider à avancer. On voit ce que ça donne quand on regarde les informations en Syrie, à la frontière des USA et du Mexique, dans les bateaux des réfugiés, dans beaucoup d'endroits chez nous aussi, mais c'est plus facile de regarder chez les autres, hein, toujours. Mais chez nous aussi, c'est logique qui nous gouverne, qui amène souvent ou parfois à des catastrophes. Et lui, Jésus, il applique une autre logique. Il n'est pas bon en logique, d'accord. Mais par contre, il est bon pour accueillir tous ceux qui veulent venir à lui. Pour nous entraîner à ne jamais oublier quelle est notre vocation. Vocation d'enfant de Dieu, vocation d'homme aussi, et de femme sur la terre, qui devons vivre et propager cette bonne nouvelle. Alors nos réflexions, nos prises de position sont peut-être parfois un peu décalées par rapport aux opinions mainstream, comme on dit aujourd'hui en bon français. Hein, ce sera peut-être décalé, oui, peut-être, parce que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Dans la première épître aux Corinthiens, déjà, ça remonte à quand même quelques siècles que ces textes ont été écrits. Chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens, la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La folie de Dieu. Et puis, dans un psaume, ce verset qui nous dit où est la véritable sagesse? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent, sa louange subsiste à jamais. Alors concluons, est-ce que nous aimons les défauts de Jésus? Oui, moi j'aime assez les défauts de Jésus. parce que ce sont des défauts qui nous disent qu'il nous propose une autre voie. Il ne nous propose pas de faire le mal, il ne nous propose pas de nous mettre en travers de tout, mais il nous propose d'être des preuves vivantes que sa grâce est toujours agissante, elle est toujours présente. Et si nous faisons le plus petit pas de foi, comme le brigand sur la croix, il va nous dire « Aujourd'hui, ta place est auprès de moi. » C'est pas « Ah oui, c'est bien, c'est un bon début, mon gars. Fais tes preuves, continue, on verra, on se revoit dans un an. » Dans certains domaines, c'est bien de faire comme ça, hein, je dis pas, mais Jésus, il n'est pas comme ça. Et si nous faisons un petit pas, il est prêt à nous dire « Voilà, aujourd'hui, ta place est avec moi. » Et nos fautes, il les jette au fond de la mer. Pas au fond de la baignoire, on peut encore aller les chercher. Pas au fond de la piscine, où on les voit encore dans le fond. Non, au fond de la mer, vous savez, là où il n'y a plus de lumière. Ah, dans les fosses marines, à je ne sais pas quoi, 5000 mètres en dessous, il n'y a plus de lumière, on ne voit plus rien. C'est là qu'il jette nos fautes. Parce que nous avons parfois du mal à les lâcher, ces remords, ces regrets que nous avons. C'est parfois nous-mêmes qui nous créons notre propre culpabilité. Parce que on a du mal à accepter que Jésus veut nous délivrer totalement. Alors on se construit notre culpabilité à notre dimension. On n'accepte pas que Jésus, par son esprit, puisse vraiment nous libérer. Et c'est cela la justification. Comme le dit ce texte ici connu de l'Épître aux Romains, il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et puis on peut citer beaucoup d'autres textes qui disent ça. Et Jésus nous permet d'être libérés totalement de toute trace de nos fautes. Alors, dans ces défauts de Jésus, on trouve l'espérance que les calculs qu'il fera seront toujours à notre avantage. Il a toujours triché un peu pour qu'on ait la moyenne quand même. Non, j'exagère un peu, mais c'est une image là aussi. Dieu est plutôt un Dieu qui multiplie sa grâce qu'un Dieu qui retranche ou qui divise. Je crois que je vous avais déjà dit ce petit texte-là, c'était Denis Heller, qui est un pasteur de l'Église réformée, qui était à Nancy pendant un temps, qu'il avait dans une causerie radio que j'avais entendue. Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça va pas assez vite. C'est bon pour les comptables. La soustraction, alors là, c'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, ça me fait mal partout. Ça, c'est le percepteur. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Ça fait des siècles et des siècles que j'essaye d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont des fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, et ils se servent même de mon nom pour diviser. Mais pour la multiplication, là, c'est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication. Je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis multiplicateur, je multiplie tout. La vie, la joie, le pardon. Et si l'homme qui fait le malin multiplie le mal par 10, moi je multiplie le pardon par 1000. Dans les défauts de Jésus, nous pouvons voir que sa logique n'est pas la nôtre, mais que c'est sa logique qui l'emportera pour le bien de tous. Je termine avec ce verset dans le livre de Job. Vous voyez que c'est toute la Bible qui raconte la même histoire, hein. C'est pas seulement les évangiles, mais j'ai pris des textes dans d'autres portions de la Bible pour bien montrer que c'est partout qu'on voit ce message. Vous savez l'histoire de Job, cet homme qui était immensément riche, et puis tout d'un coup, il lui arrive toutes les calamités possibles. Hein, comme disait l'autre, les ennuis, ça vole en escadrille, hein, c'est ça. Donc, successivement, il va perdre sa femme, ses enfants, ses troupeaux, pas sa femme, non, parce qu'elle reste là pour continuer à l'asticoter, d'ailleurs. Mais non, justement, il ne l'a pas perdu. Et dans tout cela, il a un combat énorme. Mais on le comprend, ça. Quand ça nous arrive des choses pareilles, on est aussi dans l'interrogation. Pourquoi, Seigneur ? J'ai l'impression d'avoir à peu près vécu normalement. Pourquoi tout ça, ça m'arrive ? Quelle que soit l'histoire de Job, hein, sans doute une histoire qui est imagée, qui montre le pire du pire qui peut arriver à quelqu'un. Donc on est dans l'exagération. Et puis, au moment où Job va véritablement toucher le fond, où véritablement il dit, mais il y a plus... ses amis viennent, ils veulent donner des explications. Il t'arrive ça parce que t'as fait ça, c'est la justice de Dieu, etc. Enfin, des explications théologiques plus ou moins solides. Et puis Job, il dit, c'est au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je verrai, que mes yeux verront et non pas quelqu'un d'autre. Et j'attends ça avec impatience. Voilà ce que dit Job. Alors, voilà, que ces quelques textes puissent nous accompagner peut-être pendant ces temps de vacances. Relisez les évangiles et le reste aussi, mais relisez les évangiles et ces histoires où on voit tous ces défauts de Jésus, qui sont des défauts si on les regarde avec les mauvaises lunettes, mais qui sont effectivement ce qui fait la richesse de ce cadeau qu'il nous fait à chaque instant et qui nous apprennent à chaque jour à comprendre que ce que le monde voit comme des défauts, c'est en fait véritablement la nouveauté de vie qu'il nous offre chaque jour. Oui Seigneur, j'aime tes défauts. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, parce que toutes ces histoires écrites il y a tant et tant et tant d'années, elles nous racontent encore aujourd'hui et dans la vie d'aujourd'hui que tu es celui qui veut nous accompagner. Tu es celui qui est prêt à nous ouvrir les bras si nous disons « Seigneur, aide-moi ». Oui, tout de suite, je t'aide. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je t'accueille comme tu es. Et que tout cela puisse véritablement nourrir notre esprit et que, à partir de là, notre vie puisse être transformée. Non pas transformée pour obtenir ton pardon, mais transformée parce que nous avons obtenu. Et parce que ta grâce est toujours là pour nous rattraper, même si nous chutons. Seigneur, merci d'accompagner chacun de nous pendant ce temps de vacances, tous ceux qui sont déjà partis, tous ceux qui ne sont pas là pour diverses raisons, que nous puissions tous véritablement marcher avec toi, la main dans la tienne, pour que tu nous montres jour après jour comment cela s'incarne dans notre vie de citoyens du XXIe siècle, pour que le monde comprenne qui était ce Jésus qui a accepté d'être mort, d'être cloué sur la croix. Nous croyons que tu es vivant aujourd'hui et que c'est ce Jésus vivant qui nous accompagne jour après jour. Amen.